RMC, entre les poteaux,
Roxane Lacusca.
Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel apéro des poteaux à l'aube de cette 15e journée de Top 14. Avec des beaux matchs à l'affiche, on va les détailler dans un instant. Les clubs pas encore privés de leurs internationaux. Les 42 joueurs sélectionnés par Fabien Galthié prendront la route pour Marcoussis dimanche soir. Dernier match donc au complet avant 3 matchs de doublon. Pierre Thévenet et Julien Landry, eux, ne manquent jamais une occasion de faire un apéro et ils sont bien là. Salut les gars.
Salut
Roxane. Salut à tous.
Excité par cette 15e journée de championnat, les gars?
Plutôt.
Je trouve qu'il y a des affiches pas journée. Mal et après deux semaines de Champions Cup.
Mais content de retrouver notre champion.
Ben oui.
Là, il y a des beaux matchs. Il y a des beaux matchs au week-end.
Exactement. Et ben, vous savez quoi? On y va. C'est parti pour ce 15e apéro des poteaux. On vous le disait donc, de belles affiches au programme pour cette journée, à commencer par UBB Stade Français samedi à 14h30, suivi par le multiplex à 16h35 avec Bayonne-Castres, Racing Lyon, Toulon MHR et surtout le Perpignan Montauban qui, à mon avis, sera bien intéressant. Samedi soir à 21h, match entre les deux premiers du classement, Toulouse reçoit Pau. Et enfin, dimanche 21h05, Clermont accueille La Rochelle. C'est la réflexion qu'on se faisait en regardant ce programme, messieurs. C'est que des affiches entre chaque personne qui se suit, chaque club qui se suit au classement. Première rencontre le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. etc.
Et c'est du pur hasard, hein, parce que
oui,
c'est programmé depuis
hasard.
Très longtemps. Et le top 14 a même communiqué là-dessus en disant qu'il y avait 0,02% de chance que ça arrive pendant une saison, que le 1 rencontre le 2, le 3, le 4, comme
très
ça, jusqu'au dernier. Stade qui ne sert absolument à rien.
Ah oui, j'allais dire, c'est très intéressant.
C'est pour briller quand vous êtes sur la route
pour aller au stade. On savait qu'il y a
0,02%. Non, mais ce qui est vrai, c'est que ça risque du coup de chambouler un peu le classement en fonction des résultats.
Exactement. D'ailleurs, le classement, je vais vous faire un petit point parce que c'est vrai que ça fait deux semaines qu'on a eu de la Champions Cup, on n'a plus forcément tout en tête. Toulouse est leader avec 48 points, Pau les succède avec 47 points, le Stade Français 39 points à égalité avec l'UBB et Toulon, et Montpellier ferme la marche du top 6 avec 38 points. La Rochelle, Clermont, Bayonne, Castres, Racing dans l'ordre, et enfin et Lyon. Et enfin, l'USAP et Montauban sont les deux derniers du classement. On va démarrer, messieurs, par l'affiche du bas de tableau entre l'USAP et Montauban. Julien, au match aller, on parlait déjà d'une finale entre les deux clubs qui sont donc derniers du classement, on vient de le voir. Montauban l'avait d'ailleurs remporté 29-22. Est-ce que c'est rebelote pour ce match? Est-ce qu'on parle de finale?
En tout cas, pas du côté de Perpignan. J'ai eu la chance de m'entretenir avec Laurent Labitte aujourd'hui. Alors après, la situation, elle a clairement changé depuis ce match aller. Bah, déjà, Franck Azeman n'est plus sur le banc. C'est Laurent Labitte qui est arrivé avec une dynamique bien différente. Deux victoires en top 14 probantes à domicile contre Clermont et surtout, évidemment, contre Toulouse, ce point de bonus arraché du côté de Pau où ils auraient peut-être même mérité mieux et ces matchs plutôt intéressants, notamment du côté de Castres, on sent que cette équipe...
À Toulon aussi, c'était très cohérent.
Et à Toulon, exactement, tu les as vus aussi à Toulon où ils étaient encore dans les clous à la mi-temps. Voilà, tu sens que cette équipe, elle a changé de dimension, qu'elle se rapproche, on le dit souvent avec Pierre depuis le début de la saison, que cette équipe-là n'a rien à faire à la 13e place quand on voit l'effectif sur le papier.
Il se peut qu'on l'ait annoncé top 8 en début de saison quand même.
C'est vrai, bon, on s'était peut-être un peu emballé. Non, mais tu sens qu'ils sont en train de retrouver en tout cas des valeurs propres à cette équipe-là, de combat, de férocité. Et Laurent Labitte me disait, pour nous, ce n'est pas une finale, c'est un test, parce que c'est la première fois qu'on va être favori d'une rencontre depuis le début de la saison. Donc je vais voir comment mes joueurs vont gérer ce statut de favori. Mais c'est clairement une finale pour Montauban, parce que si Montauban venait à s'incliner samedi après-midi du côté de Perpignan, c'est-à-dire demain, quand on voit comment les Montalbanais se déplacent et quand on voit que ce championnat est ultra serré, on ne voit pas où Montauban pourrait prendre des points d'ici la fin de la saison. Et Perpignan aurait entre 6 et 7 points d'avance demain soir en cas de victoire, ce qui paraît un gouffre quand on voit les sorties de Montauban. Donc l'USAP a l'occasion demain de valider, peut-être pas définitivement, mais de faire un grand pied, en tout cas un grand pas vers la 13e place et de condamner Montauban à la Pro D2. Et Laurent Labitte ne s'interdit pas du coup de rêver à aller rattraper le loup. On en a parlé il y a quelques semaines. Il disait, voilà, on va être invaincu à Aimé Giral. On a 6 réceptions. Si on gagne les 6 et qu'on fait un coup ou deux à l'extérieur, eh ben, peut-être qu'on pourra regarder ce qui se passe en haut. Mais la priorité, évidemment, est le match de demain. Je pense que voilà, c'est capital, Pierre, plus pour Montauban que pour Perpignan. Parce que autant je vois Perpignan gagner quelques matchs d'ici la fin de la saison, autant les Montalbanais, j'ai du mal à aller voir prendre des points d'ici la fin de la saison.
Ouais, totalement. J'ai peur que ça sonne la fin de la saison pour Montauban. En fait, c'est un peu ça qui gardait ce petit suspense avec Perpignan. Mais il faut bien se dire que avec le début de saison catastrophique de Perpignan, on en a beaucoup parlé et ils ont enchaîné une série de défaites qui n'étaient jamais vues dans l'histoire du Top 14. Malgré ça, Perpignan est déjà devant. En fait, Perpignan a déjà fait ce boulot de les rattraper parce que Montauban n'avance absolument pas. Montauban n'est pas à sa place dans ce championnat et c'est pas une critique envers eux. Ça leur est tombé un peu dessus cette montée parce qu'ils ont fait des phases finales énormes la saison dernière et ils se retrouvent là dans un Top 14 où ils n'ont pas l'effectif pour lutter avec les autres équipes. Et j'ai peur que ça sonne un peu à la fin de ce rêve qu'ils essayent encore un petit peu d'entretenir. Tu l'as dit, si ça gagne du côté de Perpignan, on passe à 6-7 points d'écart entre les deux équipes. Montauban, la semaine suivante, reçoit Bordeaux, ça prendra pas de points non plus. Enfin, comme tu l'as dit, on a du mal à voir où ils pourraient prendre des points parce que leurs réceptions sont compliquées. Ils vont recevoir Bordeaux, ensuite ils vont recevoir Bayonne, ils vont recevoir Toulon, ils vont recevoir le Racing, ils vont recevoir Stade Français. Non, on voit pas où est-ce qu'ils peuvent rêver de prendre des points sur cette deuxième partie de saison. Donc, je pense que pour moi, si Perpignan fait le boulot, ça validera leur 13e place et ils pourront en effet, comme dit Julien, se tourner vers la suite. Julien, tu vas donner les compos, mais il n'y a pas photo. Perpignan a un 15 de départ qui ne doit pas être à cette place-là dans le top 14.
Non, puis ce top 14, tu disais, il est tellement serré qu'aujourd'hui, en fait, plus aucune équipe ne va faire une impasse à Montauban. Parce que toutes les équipes ont pris 4 ou 5 points à Montauban, excepté Montpellier, qui finira peut-être par les regretter en fin de saison. C'est 2 points perdus du côté de Montauban. Parce que aujourd'hui tout le monde fait le plein à Montauban et quand tu vois les équipes que tu as annoncées qui vont aller à Sapiac, c'est des équipes qui sont toutes en course pour le top 6 et donc
tout le monde se dit c'est 5 points gratuits dans la saison.
Exactement, tout le monde te dit non, c'est
5 points obligatoires parce que comme tu l'as dit, il y a que Montpellier qui ne les a pas fait. Donc si tu les fais pas, tu prends Montpellier et comme tu le dis, ça peut vraiment leur porter préjudice en fin de saison parce que c'est des points que tout le monde aura pris et c'est les seuls points de la saison que tout le monde prend. Donc si tu les prends pas, tu te retrouves tout de suite en retard.
Et en difficulté. Donc effectivement, oui, alors le 15 de départ en plus. Pour le coup, il y a quasiment plus de blessés du côté de Perpignan, donc ça commence à ressembler à une grosse équipe. Tetrashvili, Malolo, Brooks pour la première ligne, Pesseliato, Mathieu Tanguy en deuxième ligne, X, Richie, capitaine, Oviedo pour la troisième ligne, Hall, Urda Pileta à la charnière, Joseph Forner sur les ailes, De La Fuente, Dougivalou au centre et Antoine Ocagne à l'arrière qui a fait un retour tonitruant d'ailleurs qui plaît beaucoup à Laurent Labitte qui a pris le but, lui longtemps blessé qui fait son retour. Et puis quand on voit le banc catalan, Mongaillard, Devaux, Pozzolo, Tuilagi, Chinaro, Vellart, Ecochard, Poulet, Ceccarelli, voilà, c'est encore une fois, on le répète chaque semaine, j'ai l'impression Pierre, mais c'est vrai que cette équipe là sur le papier elle est elle devrait être à la lutte avec Lyon honnêtement,
oui,
très clairement aujourd'hui pas
bon, on les a peut-être vus trop beaux,
oui, on les a peut-être vus trop beaux en les visant le top 8 parce que le championnat est très dense, mais ils devraient être aujourd'hui dans les clous du loup, 3-4 points derrière peut-être et jouer ce match, cette deuxième place.
Lyon a 27 points et l'USAP 9.
Oui, non, mais ça paraît un gouffre pour aller chercher Lyon. Bon, sachant que Lyon va prendre Montauban, mais que Lyon viendra aimer Giral. Donc voilà, ils espèrent en tout cas venir chatouiller les Lyonnais d'ici la fin de la saison.
Tu le disais, du côté de Perpignan, il y a eu le retour de nombreux joueurs cadres. Est-ce qu'à Montauban, c'est l'équipe classique qui est alignée? Ceux qui font souvent tourner à l'extérieur, mais peut-être pas cette fois-ci.
Ouais, là, ils ont leur capitaine Fred Kersi qui est forfait, qui est blessé. Donc, Buet, Fermin, Mafileo pour la première ligne, Wilkins, Mahafou en deuxième ligne, Fifita, Ringue, Viga pour la troisième ligne, Poel, Fortunel à la charnière, Espe, Ahmed sur les ailes, Renda, Jackson au centre, Mouchous à l'arrière et Mourouard qui va retrouver Aimé Giral sur le banc, lui qui a joué une paire de matchs du côté de Perpignan. Serol, Kanika Bilonda, Unavi, Zabalza, Bosviel qui est donc sur le banc, Mati et Pomponio. Donc vous avez vu, pas de Vici qui est peut-être le meilleur Montalbanais depuis le début de la saison, en tout cas celui qui fait des différences n'est pas là. Donc oui, ça paraît compliqué pour les Montalbanais, mais après voilà, et on n'est pas à l'abri d'un carton rouge rapide pour les Catalans qui vont jouer évidemment dans une ambiance
ce que j'allais dire,
qui vont jouer dans une ambiance surchauffée. Laurent Labitte le disait, disait, je savais où je mettais les pieds, mais je suis encore surpris de l'engouement que peuvent mettre les Catalans. Ils en parlent tous les jours, il me dit, tous les jours ils parlent de ce match là tous les jours ils me parlent de rugby. Contre Clermont j'ai fait un accueil incroyable, il est hystérique ce public, mais lui il dit voilà, c'est une énergie positive dont on doit se servir, et c'est ce que font les joueurs pour le moment. Mais oui, il est ébahi, surpris par l'ambiance qu'il est en train de découvrir à Aimé Giral, avec évidemment le bon maillot sur le dos, parce que
sinon c'est pas le
maillot catalan, c'est plus simple.
mais après, Laurent Labitte dit que c'est pas une finale, mais moi je pense que la pression est quand même sur le dos des Perpignanais, parce que ils se disent, comme on se dit nous, qu'ils doivent gagner à 99% et qu'il n'y a pas un scénario où ils le perdent.
C'est
même quand
tu
dis même un carton rouge, même à 14 contre 15, en fait, Perpignan doit être capable de gagner ce match.
Ils ont battu Clermont d'ailleurs à 14.
Ça, et puis le terme qu'emploie Laurent Labitte de dire que pour eux c'est une finale, pour nous c'est un test, on est d'accord que c'est quand même un moyen d'enlever de la pression sur le dos de ces joueurs.
Évidemment.
Bien sûr.
Mais malgré tout, ça reste quand même une finale, parce que si tu le perds, celui-ci.
Si tu le perds, je pense que c'est même pas si grave comptablement, parce que Perpignan est largement capable de reprendre les points derrière, mais je pense que tu prends un vrai coup sur la tête, alors que là t'es dans une phase qui est plutôt bonne, t'es qualifié en Challenge Cup, même si ça va servir à rien, c'est quand même une preuve que voilà, t'as réussi à avancer un peu dans une compétition alors que dans l'autre t'es complètement bloqué. Donc il y a que des signes qui sont positifs, les blessés sont de retour, Labitte a bien la main sur son groupe. Si là tu perds à domicile contre Montauban, tu te remets dans quelque chose de très compliqué pour tout l'hiver.
Est-ce que cette bonne passe de Perpignan, Julien, on peut la mettre pour Laurent Labitte ? Est-ce que c'est grâce à lui que Perpignan a su relever la tête ?
Oui, très clairement.
Il y a un effet Laurent Labitte.
C'est grâce au changement aussi, tout simplement.
Il a changé. Déjà, ils ont vidé l'infirmerie, parce que Franck Azéma n'a pas été aidé par les nombreuses blessés. Ils ont encore beaucoup de monde absent. Hein. Ils ont McIntyre, ils ont Teder, ils ont Thomas O'Hallon, qui ne sont toujours pas là. C'est-à-dire qu'ils ont quand même leurs 3-10. Et leurs 3-10 avec lesquels ils pensaient démarrer la saison, qui sont forfaits. Donc c'est quand même très très difficile, mais voilà, et ben ils ont été chercher Urda Pileta, il y a Okan qui est sorti de blessure, Tuilagi retrouve son niveau, Richie commence à devenir le Richie qu'on connaissait avec l'Écosse, et puis il a changé. Après, Laurent Labitte, c'est un pragmatique, comme il était avec l'équipe de France, il me disait Perpignan était l'équipe qui jouait le plus au ballon dans sa moitié de terrain, qui épuisait ses avants, qui tapait jamais au pied. Et ben aujourd'hui, l'USAP est l'une des équipes qui tape le plus au pied, qui met la pression dans le camp adverse et qui, avec la densité et le combat que cette équipe est capable de mettre, est capable de renverser des rencontres. Donc oui, Laurent Labitte, il a déjà évidemment changé le discours. Il y a un peu de neuf, il a vidé l'infirmerie. Je pense qu'il a des mots... Je pense que des fois, Franck Azéma était trop gentil. Je pense qu'il a protégé son groupe pendant longtemps et que Laurent Labitte, il a tiré à boulet rouge d'entrée. Je me rappelle la conf après Montpellier où il désingue tout simplement Pozzolo Tuilagi sur la place publique en disant que lui n'est pas au niveau, que cette équipe n'est pas au niveau, qu'il va falloir mettre un peu d'adversité, tirer à balles réelles aux entraînements. Voilà, il a changé de discours, il a changé de méthode et aujourd'hui, ils ont les résultats qui sont plus en adéquation avec le niveau de cette équipe sur le papier. Donc oui, l'arrivée de Laurent Labitte est salutaire pour les Catalans. Et je pense que même, ils se disent qu'ils l'ont peut-être même fait trop tard. Mais après, c'est toujours facile après. Mais voilà, ils se disent aujourd'hui que son arrivée, évidemment, a fait beaucoup de bien à Perpignan.
Ce match verra s'affronter les deux pires attaques du championnat face à la pire défense du championnat, qui est Montauban, l'USAP. Et 9e, dans quel secteur Perpignan peut le plus embêter Montauban ?
Je pense que déjà ils vont les prendre devant.
Partout.
Non, mais en fait, le problème c'est que
Montauban c'est une belle équipe. C'est une équipe qui essaye. Non mais
et Pierre l'a dit, ils sont pas au niveau du top 14, mais c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Mais regarde les déplacements Montauban, ils prennent entre 50 et 80 points à chaque déplacement depuis le début de la saison.
Ils résistent 25, 30, 40 minutes en général et puis après ça explose. Mais parce que c'est une équipe de Pro 2.
Ils ne sont pas programmés pour être là, exactement.
Et c'est pas une insulte de dire ça, c'est une équipe avec que des joueurs de Pro 2. Ils font ce qu'ils peuvent, ils s'accrochent, mais autant en foot, ça peut exister des exploits. Là, en rugby, c'est pas possible. Tu as des différences de niveau.
Et en plus,
qui sont
Pierre, tu dis, il y a une équipe de Pro 2 et en plus, ils n'ont pas la densité de l'effectif.
Oui.
Parce que le top 14, ça tape quand tu vois que Pierre Mignoni, il se plaint des fois. Le top 14, c'est dur, quoi. Ça cogne fort tous les week-ends, quoi. Et là, Montauban, en fait, c'est ça, ils sont capables des fois de résister à Sapiac Et la semaine d'après, ils ont dépensé tellement d'énergie pour résister à Sapia qui a essayé de faire un coup qu'ils payent. Alors là, leur chance, c'est qu'ils sortent de 15 jours de challenge européen où,
ouais, mais même,
évidemment,
en fait,
ils ont fait tourner.
Oui, non, oui, ils mais ont tu fait te tourner, dis voilà, ils arrivent. Ils n'ont même pas un effectif très très large pour faire tourner.
Ah oui, c'est ça.
Et ça veut dire que les mecs, ils sont allés au Connacht en prendre 75 et ils ont perdu chez eux contre des Géorgiens, des Black Lions. Ça, t'as l'impression que là, ils sont dans un tunnel où ils s'en sortent pas, quoi. Et c'est vrai que la saison peut être un peu longue. Après, ça doit être un rêve pour beaucoup d'entre eux de jouer en top 14 et leur fin de saison dernière était énorme. Et peut-être qu'ils vont réussir en redescendant à se reconstruire et à refaire quelque chose. Mais comme dit Julien, ça leur est tellement tombé dessus comme ça qu'en fait, maintenant, voilà, ils résistent avec ce qu'ils peuvent. Il faut juste qu'ils arrivent à rester connectés entre eux. Et Sébastien Thiousbord entretient cet espoir de maintien pour essayer de maintenir tout le monde concerné. Mais la saison risque d'être vraiment longue.
Dernier déplacement, 71 points à Bordeaux, 84 à Clermont, 54 à La Rochelle, 49 à Bayonne, 54 à Toulon, 61 au Racing. Les derniers déplacements en top 14. Ouais. Donc je peux pas te dire l'USAP où c'est qu'ils vont les prendre. J'ose espérer qu'il va y avoir un peu de match demain et qu'ils vont peut-être résister Montauban. Mais quand je vois les derniers déplacements de Montauban, je me dis que voilà, ça va être très très difficile pour eux d'exister. En fait, ils sont pris partout, à chaque fois sur les forces adverses, ils sont pris. Clairement, ils ont pas fait un grand match à Montauban à Sapiac, mais ils les ont pris sur les ballons portés. Ouais. Ils les ont tués devant parce que physiquement, ils sont plus forts.
Il y a toujours un secteur où l'équipe,
et Toulouse, ils étaient venus en claquette un peu à Montauban. Ils en avaient passé 50 avec les qualités qu'ont les trois quarts. Donc tu te dis qu'à chaque fois, une équipe qui a une force, elle appuie dessus et Montauban en face finit par exploser.
Alors justement, depuis tout à l'heure, on leur promet un peu l'enfer. Malgré tout, t'en parlais, Pierre, de cette fin de saison l'année dernière où ils ont joué des matchs couperets et où ils ont réussi à être portés
par contre les mêmes équipes.
Est-ce que à Perpignan, ils peuvent retrouver cet état d'esprit de l'année dernière et rivaliser?
Mais j'espère pour eux, comme dit Julien, je pense et j'espère que ça va être accroché au moins une mi-temps parce que oui, ils vont mettre plus d'investissement dans ce match-là que quand ils sont allés faire d'autres déplacements où ils savaient en partant que ça allait être très compliqué. Ce match-là, c'est le gros match de leur deuxième partie de saison et Laurent Labitte a raison de dire que pour Montauban, c'est une finale, sauf que ça l'est aussi pour Perpignan. Mais Montauban va tout mettre dans ce match-là et c'est pour ça que c'est ce match-là qui peut leur faire le plus mal parce que j'ai peur que même en mettant tout en fait il y ait 15, 20, 30 points d'écart à la fin et que là tu prends vraiment le mur de réalité parce que là t'es encore dans un truc de on peut le faire et s'ils s'accrochent à Perpignan c'est honnêtement un exploit monumental. S'ils arrivent à aller faire un coup à Aimé Giral c'est énorme parce que là t'as un Aimé Giral en face qui sait à quoi s'attendre, qui a déjà perdu à Montauban au match aller, qui a besoin de points, qui a tous ses joueurs aptes. Si Montauban arrive à faire un coup là-bas, franchement, je dirais chapeau parce que c'est vraiment quasiment une mission impossible pour eux.
Oui, et puis après, tu vois, je suis pas sûr que ce soit que... Mais évidemment, Perpignan a largement l'habitude de jouer ses matchs couperets aussi. Ouais.
Mais tu vois, je suis pas sûr que ce soit que de la com de Laurent Labitte. Moi, je partage plus ou moins son avis. Pour moi, c'est une finale pour Montauban parce que s'ils perdent, la saison elle est terminée. Ils n'ont plus aucun espoir de se maintenir. Donc demain, c'est une finale pour Montauban. C'est ou la victoire et ils espèrent, ou ils perdent et c'est fini. Alors que pour Perpignan, tu l'as dit, Pierre, s'ils perdent demain,
c'est quand même une cata.
Oui, c'est quand même une cata, mais tu te dis que cette équipe-là, elle a battu Clermont, elle a battu Toulouse à Aimé Giral. Ils ont été capables de faire des coups. Donc tu te dis que d'ici la fin de la saison, ils seront peut-être capables d'aller chercher un ou deux matchs d'ici la fin de la saison à Aimé Giral. Tu vois, le Perpignan-Castres à l'avant-dernière journée où les Castrés auront peut-être plus rien à jouer. Un Perpignan-Lyon au mois de mars, tu vois. Tu te dis qu'eux, ils ont peut-être des fenêtres de tir encore pour gagner des matchs. Même si c'est sûr que s'ils perdent contre Montauban demain, tu te dis qu'ils ne battront non plus aucune équipe top 14. Mais c'est dans ce sens-là où moi, je trouve que c'est une finale pour Montauban. Et un match important pour Perpignan, mais qui ne les pénalisera pas demain s'ils perdent.
Finale, donc, ou presque, à suivre à 16h35 dans le multiplex samedi. On passe à la grosse affiche de cette 15e journée, Toulouse-Pau. Les deux premiers du classement qui s'affrontent, Pierre, dans un duel au sommet. Et là, on peut le dire, parce que cette fois-ci, tout le monde est là.
Tout le monde est là et c'est pour ça.
C'est quoi, c'est le match le plus excitant depuis le début de la saison?
Oui, mais
depuis le début de la saison.
Et je suis d'accord avec toi, mais il me fait aussi très peur. Pourquoi? Parce que on va avoir la réponse sur le vrai niveau de Toulouse et sur le vrai niveau de Pau. Non, pas du tout, parce que j'adore le fait que Sébastien Piccheroni envoie une équipe type qu'on va donner. Pau n'a quasiment jamais eu cette ligne de trois quarts depuis le début de saison parce que Gaëtan était pété, Atisogbe était pété. Pau a toujours répondu dans les gros matchs.
Ils l'ont même jamais eu. Ouais, Pierre, c'est la première fois.
Ouais, bah voilà. Ils sont allés gagner à Bordeaux. Ils ont battu La Rochelle. Ils ont battu Toulouse. Les matchs qu'ils perdent, c'est dans des matchs où c'est à Lyon, c'est à Clermont, c'est au Racing. C'est dans des matchs où ils avaient fait un peu tourner et on les attendait pas comme un gros choc. Là, c'est un gros choc. Piccheroni joue le jeu, envoie son équipe type. Et j'espère de tout mon cœur qu'ils vont réussir à résister au Stade Toulousain. Mais pourquoi j'en suis pas convaincu? Parce que La Rochelle aussi avait envoyé sa grosse équipe à Toulouse. La Rochelle a pris une danse.
Non, mais... Pas autant que Pau quand même.
Oui, non, mais...
Ils avaient fait tourner
ils
sur
avaient,
certains postes là où Pau ne le fait
avaient
pas.
Tenté de jouer le coup. En
et
tout cas,
ils sont pas au même niveau.
Mais, oui, non,
Toulon
mais sûr,
avait
mais...
envoyé l'équipe.
Toulon... Ah non, pas Toulon. Non, Toulon avait, Toulon avait vraiment fait tourner. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a...
Toulon avait envoyé la grosse équipe à Bordeaux.
Oui, Toulon avait la grosse équipe à Bordeaux. Non, mais il y a, y a
non,
des équipes...
On va pas comparer La Rochelle et Pau quand même.
Bah non.
Non, mais je dis pas ça. Non, mais Julien, tu vois ce que je veux dire.
Reste objectif.
Non, mais oui.
Je pense que ça va donner aussi une vraie indication sur la suite de la saison. Mmh. Et s'il y a grosse victoire de Toulouse, ça va faire mal à l'intérêt de notre championnat sur la suite de la saison. C'est juste ça que je veux dire, c'est que on va dire oui.
Toi, t'as peur que Toulouse s'impose quand même très
non,
largement.
Non, mais il y a des statistiques. 34 points sur 35 pris possibles par Toulouse à domicile depuis
Julien,
le début de la saison.
Tu connais le score
49
moyen de Toulouse.
Points de moyenne. 49. Oui, tu avais qu'à écouter l'excellent Moscato cet après-midi à 15h.
Tu avais toutes les informations. Il passe 49 points de moyenne, t'as dit.
Ouais, à domicile.
Ah, j'avais pas ça, moi. Bon, c'est pas grave.
49.
Non, moi j'avais un score moyen. J'avais un score moyen de 52-14, mais dans l'idée, ah. Voilà, on est dans les, on
oui,
est dans
ça
les
fait
mêmes
50
zones.
Points,
il
ça
passe
fait 50
pions
points,
à chaque fois. Chaque c'est équipe ça. Qui est venue à Toulouse a pris 50 points. Pau, certes, est une très belle équipe de cette saison qui joue super bien, qu'on a envie de voir aller loin. Mais pourquoi Pau ne prendrait pas 50 points comme tout le monde? En fait, c'est juste ça que je, c'est là-dessus que j'ai une petite interrogation.
Il y a 6 bonus sur 7 pour Toulouse.
C'est ça. Il y a que le Stade Français et Perpignan. Finalement, c'est les équipes qui ont un peu résisté face à Toulouse, ce qui est assez dingue parce que le Stade Français c'est une équipe qui ferme beaucoup le jeu aussi, donc ça peut se comprendre. Mais il faut aussi peut-être enlever un peu de pression sur cette équipe paloise, même s'ils perdent pour eux, ce ne sera pas très grave. Ils ont déjà ce petit matelas sur la troisième place. Je pense qu'ils se testent en vue des phases finales, de dire voilà, qu'est-ce qu'on est capable de faire avec notre équipe type.
C'est un peu à qui tout double de faire ça quand même.
Je ne suis pas d'accord, parce que tu vas devoir les jouer
non,
ces matchs-là.
Tu leur donnes de l'expérience, ils devront les jouer.
Ouais, c'est un match qui peut rester dans les têtes aussi.
Je suis pas sûr parce que t'as encore 6 mois de compète derrière. C'est des mecs qui vont partir pour beaucoup à Marcoussis pour encore prendre de l'expérience. Et imaginons, on peut se projeter vers une demi-finale contre Bordeaux. En fait, si t'arrives en demi-finale contre Bordeaux en ayant déjà fait que tous les joueurs, les 15 qui jouent, ont déjà fait ce match à Toulouse où ça a été dur, où t'as bataillé, bah t'as un petit peu d'expérience qui est acquise pour la suite. Donc je suis plus inquiet pour le top 14 que pour la section paloise sur ce match-là. Mais en effet, comme l'a dit Julien, au-delà de ça, affiche super excitante. Tout le monde est là, tout le monde est sur le terrain.
Qu'est-ce qu'il y a? Admettons que la section prenne 40 points demain.
C'est pas grave.
La Rochelle a pris 40 points, Bordeaux a pris 40 points, Toulon a pris 40 points. Non, mais Roxane, tu vois, c'est dans ce sens-là que je veux dire, ça va pas leur miner la fin de saison. Oui, psychologiquement, ça va être dur.
C'est pas ce que je veux dire. Moi, ce que je veux dire, c'est que quand tu les retrouves en phase finale, c'est un match qui peut te rester en mémoire.
Tu prends Toulouse en phase finale, Roxane, tu.
J'ai pris 50 pions chez eux et je.
Là, mais regarde, Bordeaux, ils avaient
quoi.
Pris 60 points en finale contre Toulouse et il y a deux ans. Ils les ont battus en demi-finale. Ils amènent en prolongation. Cette équipe-là, paloise, elle va prendre de l'expérience énorme. Tu vois, ils sont quand même 6 joueurs formés à Pau dans les lignes de 3 quarts.
C'est énorme.
Demain, du côté de Toulouse. 6 sur 7 3 quarts formés.
Il n'y a que Grand Didier qui n'est pas
Il n'y a que Grand Didier qui n'est pas formé. Sinon, ils sont tous formés. Et cette équipe-là, elle a plus fière allure que celle qui a été gagnée à Bordeaux.
Bien sûr.
Sur le papier. Donc tu te dis
que
voilà.
L'équipe
après...
de Toulouse a plus fière allure que celle de Bordeaux.
Effectivement, aussi. Mais voilà, effectivement, quand on va dire les deux équipes, c'est un gros combat.
Allez-y.
D'ailleurs, ils ont inversé la charnière à Toulouse.
On va commencer par celle de
Thomas
Toulouse.
Ramos, enfin, en numéro 10.
Exactement. Thomas Ramos est de retour en 10, King Gorn en 15. C'est
bien,
vrai que
ça va rouvrir les débats.
Non, c'était la petite spécialité du Gomola. Oui, c'est vrai que ça peut rouvrir les débats en bleu. Mais en tout cas, Ramos est de retour en 10. Première ligne, Neti, Marchand, Aldeguerri. Il y a de l'international. Deuxième ligne, Flamand, Meafou. C'est international. Troisième ligne, Cross, Gelonge, Brennan, c'est international. Dupont-Ramos, c'est une super charnière internationale. Choco Barrès en 12, Calvin Gourgue en 13, Lebel, Teddy Thomas, Kinghorn. Et puis un banc Movaca, Cyril Bay, Clément Verger, Alexandre Oumat, Jacques Willis, Paul Grau, Paul Coste, Georges-Henri Colombe. C'est le mieux de ce qu'il pourrait faire actuellement. Il y a Romain Tamac qui n'est pas là. C'est à peu près tout. Et en face, Pau va tenter de rivaliser avec ses armes. J'ai peut-être un petit peu peur devant, on en reparlera Julien, mais Etchebert, pilier gauche, Montoya, Laclaya, Oradou, Maximin, la deuxième ligne qui marche bien à Pau. Zeger, Rissi Watt et Facundo Issa, pas de Gorgadze qui est absent. Souverbi, Desperes, la très jeune charnière paloise d'Aubagna est sur le banc. Brobois et Gaëton, Grand Didier, Arfeuille, Atisogbe.
Ouais, la ligne de 3 quarts,
la ligne de 3 quarts est vraiment fait rêver. Delomel, Seneca, Capelli, Whitelock, Credoz, D'Aubagna, Mondina et Tokolaï sur le banc. Le banc n'est bien sûr pas au niveau du Stade Toulousain. Devant, ça va être compliqué aussi, je pense, même si ils se sont vraiment renforcés. Par contre, Julien, on l'a dit, cette ligne de 3 quarts, honnêtement, elle fait rêver parce que t'as que des bombes à tous les postes. Des mecs qui sont hyper modernes, entre guillemets, dans leur style de jeu. Les meilleurs ailiers aériens du championnat, des centres qui vont à 10 000. Donc, et Atisogbe qui est de retour en 15. Honnêtement, c'est incroyable derrière.
Non, mais il y a plus de... Alors, on ne l'a pas dit, mais il y a plus de Palois en équipe de France qui jouent derrière que de Toulousains.
Oui,
ils sont
derrière,
trois Toulousains contre cinq Palois. Et ils auraient pu même être six
pas
si... pas devant, effectivement. Et ils auraient pu être six si Gaëtan avait été là. Non, non, mais oui, c'est excitant parce que... Voilà. Après, on sait la tactique que va employer les Palois. Hein. Despérès, il va mettre des chandelles dans les angles.
Tout le match.
Il va monter des quilles dans les angles pour Harfeuil et Grand Didier.
Et attention, hein, Grand Didier, Teddy Thomas, il va en prendre un paquet des ballons Grand Didier sur la tête de Thomas. Ça, c'est une certitude.
Mais c'est vrai. Ouais, c'est... Et puis même Mathis Lebel. Hein.
Oui,
Lebel,
c'est pas non plus. Un petit peu plus à l'aise que
c'est
Thomas
vrai.
Quand même.
Mais... Non, et puis après, ils vont aller attaquer le milieu du terrain avec Broboiri et Gaëtan. Donc, non, non, ils ont les armes pour embêter Toulouse, mais évidemment, quand tu regardes l'équipe de Toulouse,
tu c'est quasiment l'équipe de France avec un international argentin et un écossais dedans. Quoi.
Après, tu vois, là, alors il y a eu Pierre Trieb qui a appelé cet après-midi au Moscato Show, l'ancien pilier de la section paloise, je précise. Il disait ouais, mais quand on fait le jeu de savoir qui je prends devant, alors évidemment, on prend beaucoup de Toulousains. Mais derrière, il disait, il y a match. Je ne sais pas si je prends plus de Palois ou de Toulousains. C'est vrai que derrière, ça donne envie, c'est excitant.
Oui, oui.
Derrière, la confrontation. Ouais, c'est, je te dis, moi, depuis les 15 journées de top 14, c'est le match qui est le plus excitant à suivre. Et peut-être qu'à la mi-temps, il y aura 35-3 pour Toulouse et on éteindra la télé en disant, mais voilà, ils sont trop forts
et c'est comme
ils auront tué le championnat.
Après,
mais voilà,
quand même,
avant, ils m'excitent.
Pour défendre Pau, on leur promettait aussi un peu ça à Bordeaux en disant, ils risquent d'en prendre quand même, même s'ils y vont bien armés. Et ils ont gagné d'un point.
J'ai peut-être été sévère.
Après, Bordeaux n'est pas Toulouse non plus.
Ce serait la meilleure nouvelle pour la suite de la saison que Pau, ne serait-ce qu'embêter Toulouse. Si Pau va chercher un bonus d'effet bataillé, c'est même pas que j'y crois pas trop, c'est que Toulouse me fait peur. Non, mais dès que ces trois dernières saisons, dès qu'il a fallu hausser le niveau, surtout à domicile, en fait, Toulouse n'a jamais balbutié sur rugby. Ils ont toujours été énormes. Ouais. Donc. C'est juste ça qui m'interroge un peu, mais j'adorerais que cette équipe-là de Pau, avec son style de jeu, avec ses jeunes derrière, arrive à embêter Toulouse. Ce serait hyper excitant pour la suite de la saison.
Ouais, puis je le disais, devant, c'est quand même pas la même chose. On parle des arrières depuis tout à l'heure, mais devant, on voit mal comment Pau pourrait vraiment rivaliser avec Toulouse, Julien.
Même s'ils sont renforcés.
Oui, oui non, mais de toute façon, Toulouse, ils ont pris tout. On l'oublie, on a tendance à l'oublier, mais tous les titres toulousains sont gagnés quasiment par le paquet d'avant. Mmh. Et là, Pierre, quand il annonce l'équipe, c'est les 8. Ça pourrait être l'équipe de France.
Ça pourrait être l'équipe de France.
Netti, Marchand, Aldeguerri devant. Alors, Aldeguerri, il est plus à son niveau,
mais dans l'idée,
Flamand
met
à fond, c'est la deuxième ligne.
La
Cross, Brennan, Jelonche. Brennan, il a été appelé par Fabien Galthié.
Non, mais sur le banc, t'as Romain et Willis, quoi.
C'est ça, exactement. Donc, le 8 de devant, autant derrière, tu peux hésiter de savoir est-ce que je prends Broboiri ou Chocobarès. Autant devant, il n'y a pas un joueur sur qui il y a débat. Même si Oradou est très fort aujourd'hui. Il est derrière Flamand, même si Maximin monte en 5, il est derrière Méafou. Même si Issa en 8, il est énorme, Jelonche, il est énorme. Donc voilà, devant, il va y avoir un combat. Et tu sais que voilà, les Toulousains, ils vont vouloir d'abord leur faire mal devant. Mais là où les Palois m'ont rassuré, c'est qu'ils ont tenu contre Montpellier, qui est peut-être l'un des paquets les plus denses devant quand ils ont été joués au Hameau. Ils avaient tenu la comparaison devant, physiquement. Voilà, s'ils arrivent à tenir un peu le combat, à entamer un bras de fer avec Toulouse devant, à récupérer quelques pénalités en mêlée, à ne pas se faire contrer en touche, ils pourront exister. Mais si devant, ils ne sont pas invités, ils vont en prendre.
Il faut aussi réaliser que jamais au début de saison, on aurait pu se dire que Pau peut faire quelque chose sur la pelouse de Toulouse. C'est déjà énorme. Et moi, cette équipe-là de Pau, je la vois sur le papier, je me dis qu'elle serait peut-être favori partout, sauf face à Bordeaux ou Toulouse. À Mayol, c'est compliqué d'aller gagner, mais tu me mets cette équipe-là de Pau sur la pelouse du Stade français, de Montpellier, de La Rochelle, de Clermont, de Bayonne, je dis Pau gagne. Parce qu'ils ont réussi à créer un truc exceptionnel en 6 mois. Donc, de dire que peut-être ils vont perdre contre Toulouse, tout va bien. C'est pas la fin du monde pour eux.
Mais même s'ils en prennent 40, c'est ce que je veux dire.
Même s'ils en prennent 40. En tant que fan de rugby, j'espère que ce choc fera pas pitié.
Oui,
c'est juste ça.
C'est ça.
D'autant que Piccheroni l'a dit en conférence de presse, Pau n'a pas encore cette expérience suffisante pour s'imposer systématiquement dans les grands matchs, en faisant référence à Toulouse, qui a une culture de la gang qui est... forcément, qui n'est plus à prouver. Est-ce qu'il n'y a pas un petit risque de complexe d'infériorité?
Ouais, ils n'en ont pas eu à l'aller. En tout cas, c'est ça qu'il faut se dire aussi. C'est que c'est à la maison, certes, mais c'était hyper chaud. Ils marquent un essai à la fin.
Ils vont chercher la
victoire face à Toulouse. Enfin, c'est pas rien non plus.
Ouais, parce qu'ils peuvent taper en touche pour aller récupérer un bonus ou le nul, je crois. Ils peuvent aller en touche pour le nul.
Ouais.
ouais. ils décident d'aller chercher la victoire en touche. Donc ouais. tu te dis quand même que voilà, ils avaient envie.
C'est vrai que l'aller, c'était un sacré match déjà.
C'était le meilleur match. C'était le plus haut match de la phase aller.
Après, n'oublie pas quand même le Montpellier-Clermont, qui était quand même top.
Ouais. Matic, 9-7, oui, on s'était régalé. 9-6. Mais bon, à l'époque, au match aller, il y avait Rému à l'arrière, il y avait Capozzo, il y avait pas Dupont. Oui, c'était pas la même équipe de Toulouse. Autant l'équipe paloise, elle était déjà belle à l'aller, autant Toulouse avait un peu fait tourner son effectif. Et c'était à Pau.
Bon, c'est la dernière tournée des internationaux avant qu'ils ne partent.
On va tous toucher du bois parce que en général, cette journée-là, elle
alors ça aussi, est-ce que ça peut être un risque de jouer un peu avec le frein à main en se disant « Ouh là là, j'ai mal la sélection qui arrive », notamment pour les Palois qu'on connaît peut-être un peu moins que les Toulousains.
Ah, moi, j'allais te dire, moi, je pense que les Palois, ils n'ont pas à calculer. Non. Honnêtement, Roboiry, est-ce qu'il se dit qu'il va être dans les 23 contre l'Irlande ? Je ne suis pas convaincu que dans sa tête, je pense que Roboiry monte à Arfeuil. Autant Ramos, tu vois, il peut se dire, mince, j'ai l'Irlande qui arrive.
Moi, je dirais plutôt pour les Toulousains, exactement.
Moi, je pense que les Toulousains qui savent qu'ils vont être dans la liste des 23 peuvent peut-être lever un peu le pied en se disant, ouais, il faut quand même qu'on se ménage avant l'Irlande.
Et
autant les Palois.
Le Bordeaux Stade Français, je le vois pareil. C'est plus, tu vois, c'est le côté. Oui. Bielbiarrette et Jalibert.
Jalibert, par exemple, typiquement, ouais, lui qui sait qu'il a sa chance, qui arrive là en équipe de France, je pense que Jalibert, il peut peut-être jouer un peu au ralenti au cas où, tu vois. Pour moi, Arfeuil, Grand Didier, ils n'ont rien à perdre là. Ils ont juste encore à se montrer à Fabien Galthié pour dire on a fait un grand match contre Toulouse, on est capable de faire des grands matchs, donc tu peux nous faire confiance en équipe de France. Moi, pour les Palois, ils ont tout à gagner à ce match-là.
Effectivement. Match à suivre donc samedi à 21h. On sera tous en train d'écouter évidemment notre chef Wilfried Templier pour commenter ce match. On passe aux affiches que vous avez choisies, messieurs. Julien, quel match nous conseilles-tu de suivre ce week-end ?
Ah, moi, il y a le Toulon-Montpellier, évidemment, qui est aussi très intéressant. Ça va être évidemment moins sexy que le Toulouse-Pau. Hein. C'est pas du tout le même profil d'équipe. Autant Toulouse-Pau derrière, ça nous fait rêver. Autant là, Toulon-Montpellier, ça risque.
Bon combat.
En plus, vu la météo, vu la météo qu'ils annoncent à Mayol, de la pluie, du vent. Donc là, ça va être du combat. Des domaines que les Palois, que les Montpelliérains et les Toulonnais affectionnent. Donc là, ça va cogner très très dur. Et puis Montpellier a envie de se tester. Ça fait deux matchs qu'ils explosent contre Toulon. C'était à Béziers en mars et c'était lors de la première journée où ils avaient été pris devant, pourtant l'une des forces du MHR. Donc ils veulent aller se tester du côté de Toulon, voir s'ils sont capables de résister au RCT qui est. Pierre les a vus contre Perpignan, je trouve, un petit peu dans le dur depuis quelques semaines.
Contre Perpignan, je les ai vus à Gloucester aussi.
Ouais. On se rappelle du match à La Rochelle où ils ont beaucoup fait tourner. Après, l'équipe de Toulon, elle a de la gueule, l'équipe de Toulon. Mais tu sens qu'ils sont un peu dans le dur aussi. Donc, ça sera Priso, Bobigny, Sinclair pour la première ligne. Ribans, Alain Ouézé, deuxième ligne. Ludlam, Olivon, Abadi. Ça fait quand même rêver ce paquet d'avant toulonnais.
Avec Mercer sur le banc.
Ouais. Serein, Albornoz à la charnière. Tuikovu, Dréan sur les ailes. Brex, Kowi au centre, Daumont à l'arrière. Donc
lui
c'est quand
très
même
bon
ce qui se fait de mieux aussi du côté de Toulon avec les blessés. Damon, Gros, Javakia, Kapoku qui vient du Racing prêté. Mercer, White, Ferté, Gigashvili. Donc c'est la meilleure équipe possible de Toulon contre la meilleure équipe possible de Montpellier. Erdosio, Tolofuang, Patin, Vérac, Duguide, Nouchi, Béconnier, Vunipola, Price, Miotti, Taofi, Fenoua, Ngandébé sur les ailes, Picardo, Vincent au centre, Banks à l'arrière, Ouileze, Forletta, Chaluro, Massibaka, Colli, Hogg, Kado, Welsh. Ces deux équipes, honnêtement, sur le papier, tu te dis qu'elles seront pas loin d'être dans les 6 et ça nous promet en tout cas un sacré duel.
C'est pas des équipes que tu as envie de voir, mais c'est des équipes qui seront dans les 6.
C'est ça, exactement.
C'est pas les jeux les plus fun du top 14, mais c'est vrai que moi Toulon, j'ai pas des doutes sur eux parce que c'est quand même une équipe qui a un effectif exceptionnel, mais ces dernières semaines comme a dit Julien, c'est moins bien. Ils ont vraiment plus de mal. Moi, je te dis, à Gloucester, contre une équipe de Gloucester qui était complètement remaniée, c'était le quatrième talonneur qui jouait, qui était même pas avec l'effectif pro. Ils ont eu du mal à faire des différences, notamment derrière, où je les trouve vraiment très peu inspirés. Même si Kowi apporte un petit peu de folie, mais il a souvent du mal à faire jouer derrière lui. C'était le cas notamment en Angleterre. Mais comptablement, ça va être hyper important. Toulon est 5e, 39 points. Montpellier 6e, 38 points. Là, ça peut être une victoire. Si Montpellier va gagner là-bas, c'est voilà. Bonjour messieurs, je suis candidat pour le top 6 en fin de saison. Ça serait vraiment une victoire qui aurait du sens, je pense, pour les Montpelliérains d'aller taper Toulon. Mais Toulon à Mayol, bon.
Oui, ça reste
c'est quand même une.
Après, on parle de Toulon qui va moins bien. A contrario, par contre, Montpellier, Julien, c'est 8 victoires sur les 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues.
Oui, donc 4 matchs de challenge, hein, les oublions pas.
Oui, bien sûr. Mais bon, ça compte aussi dans les têtes.
Non, mais ça compte dans la confiance, en tout cas, de cet effectif-là qui avait très mal terminé ce premier bloc. Pierre en parlait tout à l'heure avec ce match affreux contre Clermont conclu par un vilain 9-7. Mais c'est vrai que le deuxième bloc des Montpelliérains depuis le retour de la tournée de novembre avec cette défaite, cette victoire inaugurale du côté de Perpignan, ce match qu'ils auraient dû pu gagner du côté de Pau, ces matchs réussis à Montpellier. Voilà, tu sens que Johan Codulo, il est en train aussi de trouver son groupe. Il a aussi la chance d'avoir quasiment tout son effectif à disposition, à part Yacouba Camara là, qui est blessé. Mais oui, cette équipe-là, elle est. De toute façon, à chaque fois que tu parles avec l'entraîneur adverse, ils te disent tous « Montpellier, ils n'ont pas droit à la prendre devant.
Ah »
c'est une équipe dure au combat, qui est solide dans sa conquête. Et là, pour le moment, ils maîtrisent parfaitement la conquête. Mais c'est un peu comme la saison dernière. Hein. Montpellier, sur les mois d'hiver, ils ne sont pas rigolos à prendre parce qu'ils adorent.
Mais dès qu'il faut jouer au rugby, c'est plus compliqué.
C'est ça. Et encore cette année, ça va mieux.
Non,
mais l'année dernière, ils avaient réussi également un très gros deuxième bloc qui leur avait permis de remonter au classement avant de s'effondrer au mois d'avril. Et là, c'est pareil. Ils ont des conditions qui, dans leur jeu, ils ont un paquet d'avant qui est très lourd, qui n'est pas très mobile. Donc là, les pelouses, elles sont grasses, donc personne ne va très vite. Donc là, les Montpellierains se régalent de ces conditions-là.
J'ai les mêmes au Racing, mais ils jouent dans un gymnase. C'est dommage.
Ouais, c'est ça,
dommage.
C'est plus embêtant.
mais par contre, il faut souligner que sur cette journée de top 14, tout le monde fait jouer tout le monde. Il n'y a pas de grosse rotation. Et on en parlait avec Patrice Collazo, parce que je parlais du Racing, qui disait, vous allez voir, lui, il pensait que déjà en février, ça allait être très important, enfin janvier-février, parce que c'est les doublons, c'est des périodes toujours importantes. Et il disait, le championnat est beaucoup plus morcelé sur cette deuxième partie. Il y a les bleus en même temps, il y a des périodes de repos. Et lui, il a dit, en tout cas, nous, au Racing, on va beaucoup moins faire tourner l'effectif et on va envoyer des équipes compétitives toutes les semaines parce que maintenant, il faut prendre tous les points partout. Et il y a plus besoin de repos intense parce que, bon, la saison est lancée et il va y avoir plein de périodes de repos.
Et puis, il y a besoin aussi de monter en puissance.
En montant en puissance et les finales de Champions Cup au milieu, il y a les bleus. Il va pas y avoir ces périodes de 8 ou 9 matchs consécutifs qu'on a eu en début de saison. Donc, peut-être que ça va permettre de rehausser un peu l'intérêt de certains matchs.
Ouais, tu rêves d'un championnat un peu plus serré, enfin, de matchs un peu plus serrés en tout cas. Dans les semaines à venir. Match donc à suivre à 16h35 également dans le multiplex. Pierre, quel match toi tu as décidé de suivre ce week-end ?
Le tout premier, le Bordeaux Stade Français samedi en début d'après-midi parce que c'est un des autres grosses affiches et le troisième contre le quatrième donc c'est important d'en parler et parce que le Stade Français n'a jamais été ridicule sur ces gros matchs à l'extérieur. Ils ont toujours réussi à au moins exister un petit peu. C'est vraiment pas flamboyant, c'est un peu comme Montpellier, hein. C'est une équipe qui est redevenue hyper costaud devant qui fait peur en top 14, parce que je pense que comme Montpellier, c'est pas une équipe que tu as envie de prendre, cette équipe du Stade Français qui est en Challenge Cup, donc pareil, qui peut se reposer les week-ends de Coupe d'Europe. Mais à Bayonne, ils perdent 35-34 à la dernière minute, à Clermont ils perdent 36-32 à la dernière minute, à Toulouse ils ne perdent que 29-17, qui est quand même un exploit, Castres 29-24, et ils sont toujours au contact, ces Parisiens. Après, maintenant, Bordeaux, c'est un autre niveau, mais je pense que pour le Stade Français, c'est le meilleur moment possible pour prendre Bordeaux, qui sort de deux semaines de Coupe d'Europe où tout le monde a joué. Et comme on disait avec Julien, peut-être que certains vont mettre un petit peu le frein à main. Bielbiaré n'est pas là, par exemple. Jalibert, De Porter, Moefana, ces mecs qui vont jouer à coup sûr contre l'Irlande. Forcément, ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc, je pense que c'est le bon moment pour le Stade Français pour y aller. De là, les gagner, je ne pense pas, parce que en termes de rugbystique, il y a une petite classe d'écart entre les deux équipes. Mais le Stade Français, pour le coup, n'a aucun international, puisque Noah Néné n'est pas là pour cette rencontre. Donc, ils vont tous pouvoir jouer à fond. Et je pense qu'ils ont très bien en tête que cette période-là, elle va leur être bénéfique. Comme le Racing, hein, mes deux clubs parisiens, ils n'ont pas d'internationaux, à part Hugo Sun et Noah Néné. Donc là, les mecs, ils sont pieds au plancher pour ces matchs top 14, parce qu'ils vont moins jouer dans cette deuxième partie de saison. Donc je pense qu'on peut avoir un match au moins un petit peu accroché. Et peut-être que Paris peut aller à nouveau chercher, par exemple, un bonus défensif en embêtant Bordeaux.
Alors vas-y pour les compos, justement.
Alors à côté Bordeaux, on fait un petit peu tourner. Notamment, par exemple, c'est Conorsa qui démarre au talon, entouré de Poirot et Tamei Funa. Gray Coleman en deuxième ligne. Verne Taillefer, Palu, Mathieu, pas de Woki non plus, par exemple. Pajrello, Jalibert à la charnière, Moefana deux porteurs au centre, Penaud qui va forcément avoir envie de briller sur l'aile droite, Huberti sur l'aile gauche, Rayassi à l'arrière et un banc avec Lamotte, Perchaud et Sadi en première ligne, Tian Jacobs, Romain Gardra pour finir ce paquet d'avant et puis Retière, Kerberi, Buros, banc 5-3 donc pour l'Union Bordeaux-Bègles. Côté stade français, Abramishvili, Nico Terra, Alouemil, Gabriel Pesanti en deuxième ligne, Alaifonoua, Briat, Skelzo en troisième ligne. Paul Abadi titulaire en demi-mêlée avec Carbonel. Tani Vili, que Gustard aime beaucoup en numéro 12, avec, qui revient de Petit Pépin, qui était titulaire sur la Challenge Cup et qui est titulaire encore avec Jérémy Ward. Dakuwaka, Marchand sur les ailes, Léo Barré à l'arrière. Et un banc qui, là aussi, je trouve, ressemble à quelque chose. Pérez Blanc, Moses Alouemil et le serial marqueur Giorgi Melikidze, l'homme abonné aux équipes type RMC Sport qui est sur le banc numéro 23. Azago, Irigoyen, Tanga et puis Carbarlo et Zeala pour couvrir les postes arrière. Je sais pas, Julien, si tu vois le Stade Français possiblement exister sur cette rencontre.
Non,
non,
non, je vois pas.
Tu partages pas l'avis de Pierre.
Mais je suis un
mais
peu
parce que non, mais Yannick Bruce sait qu'il démarre une période compliquée pour les Bordelais parce que même s'il va pas y avoir beaucoup de doublons, il y en a deux sur la période, mais il y a déjà un faux doublon la semaine prochaine parce que
oui,
Yannick Bruce sait qu'il va récupérer. Ouais, Yannick Bruce sait qu'il va récupérer aucun des Bordelais la semaine prochaine pour le prochain match de Top 14. Et Yannick Bruce sait l'importance, même si voilà, il y a la section qui est loin, il sait l'importance d'essayer d'aller chercher une place dans les deux. Et qu'il se dit que s'il venait à taper Bordeaux et que Pau venait à perdre à Toulouse, ben, il se rapprocherait un peu de la section paloise. Et je pense que les Bordelais ont pleinement conscience de l'importance de ce match-là avant d'entamer les doublons, qui est une période compliquée encore aujourd'hui pour Bordeaux, même s'ils avaient plutôt bien géré la saison dernière. Et je pense qu'ils savent qu'il ne faut absolument pas perdre contre le Stade Français. Parce qu'en plus, tu l'as dit, hein, ils enchaînent après, ils vont à Montauban sur le faux doublon. Donc, oui. Tu te dis que là, Bordeaux, ils peuvent faire 9 ou 10 points sur les deux matchs qui viennent juste avant d'entamer la pause du top 14, avant d'entamer en plus, eux, le sprint de la Coupe d'Europe. Je pense que Bordeaux, c'est défaite interdite demain et qu'il va falloir, ils vont faire le nécessaire pour voilà, se débarrasser des Parisiens assez rapidement. Même si les Parisiens sont accrocheurs. Mais voilà, je sais que pour Bordeaux, c'est un match hyper important dans leur calendrier, celui-là qu'il ne faut pas rater.
Très bien, match à suivre à 14h30 ce samedi, match d'ouverture de cette 15e journée de Top 14. On va conclure
ce podcast. Étonnant d'ailleurs qu'il ne soit pas à 21h, que ce soit le Clermont-La Rochelle, je le trouve plus sexy. Oui. Là, mais bon,
c'est vrai. Peut-être qu'au moment où il faisait le
calendrier. Oui, c'est possible, le calendrier.
Le calendrier.
Et peut-être qu'il y a
pas
des histoires de nombre d'équipes diffusées.
Et moi,
je
me pose la question.
Après, peut-être qu'ils
n'avaient
pas le droit ah ouais, c'est
de les mettre le dimanche soir alors que les internationaux partaient à Marcoussi.
C'est possible que.
C'est un peu le même cas que Toulouse Pau qui méritait d'être l'affiche du dimanche soir.
Non, mais je
soir,
pense. Alors, sans aucune info. Mais je pense que ces clubs-là, avec les internationaux, ont peut-être demandé à être
oui,
là le samedi pour pouvoir rejoindre Marcoussi le dimanche.
Parce qu'on réexplique
même s'il y a des internationaux à La Rochelle, il y a des internationaux à La Rochelle et Clermont.
Oui,
dans Clermont, il y en a.
Si, à Montagne.
Montagne, et à La Rochelle, pas beaucoup.
Bah, Gégou, Boudéan. Ouais.
Parce qu'on réexplique, ouais. Pierre, que ceux qui partent à Marcoussi le dimanche soir ne peuvent pas s'entraîner dès le mardi.
Exactement.
Le lundi, ceux qui jouent le dimanche soir.
Ceux qui jouent le dimanche n'ont pas le droit de faire le premier entraînement à Marcoussi le mardi. Ça. Et ça a été très souvent Toulouse. Et donc, ça a donné des scènes un peu cocasses à Marcoussi où, en fait, il y avait un entraînement avec 12 mecs en survêt sur le bord qui n'avaient pas le droit
déjà
de s'entraîner.
Déjà que Fabien Galtier nous ouvre des parapluies sur les arbitres.
Julien, c'est
ça,
pas le moment.
Si en plus, on peut lui empêcher de nous ouvrir un parapluie sur les joueurs. Non, mais ça, je rigole. Mais déjà qu'il n'a pas beaucoup de temps pour préparer.
Oui, et d'autant que le match est le jeudi soir
voilà.
Quand même.
Voilà, donc si tu peux lui rajouter un entraînement lundi avec les Toulousains et les Palois qui sont les Bordelais, en fait les trois principaux pourvoyeurs aujourd'hui de l'équipe de France, c'est Toulouse, Bordeaux et Pau. Et donc je pense que voilà, il y a peut-être aussi un arrangement pour que Fabien Galtier puisse dès lundi commencer à travailler sur une semaine qui, on le saura, très courte. Je crois qu'ils ont dit qu'ils avaient 8 entraînements avant le match contre l'Irlande. Donc voilà, si tu peux éviter d'en avoir que 7 et d'en faire 8, c'est sûr, exactement. Donc je pense qu'il y avait l'intérêt du rugby français qui joue là-dedans.
Et tant pis pour Oscar Gégou et Régis Montagne.
Oui. Et Paul Boudéan.
On ne peut pas satisfaire tout le monde de toute manière. Quels sont vos joueurs à suivre, messieurs? Pierre, je vais commencer par toi.
Le castré Voité Karawalevu, le centre qui est énorme depuis 3-4 matchs. Homme du match contre le Munster en Champions Cup, avec un essai, 3 franchissements. Il avait été énorme aussi sur la pelouse du Stade français. Malgré la défaite à Paris où il avait battu 6 défenseurs sur la rencontre, c'est un joueur qui est arrivé des Fidjiens de Drouin, qui a longtemps joué à 13, au roster de Sydney. Il peut jouer ailier, il peut jouer centre, il peut jouer 15, il sait absolument tout faire. Et Sadourny en parlait après le match du Stade français en disant que voilà, il montait vraiment en puissance, qu'il avait eu besoin d'un petit temps d'adaptation évidemment, mais que là il était vraiment en train de prendre de l'importance. Il met Jack Goodieu sur le banc quand même, le All Black, puisqu'il est titulaire avec Vilimoni Botitou sur la pelouse de Bayonne, et c'est vraiment un facteur X. Parfois je trouve que Castres manque un peu de ces facteurs X, ces mecs capables de faire des diffs un peu tout seul, et pour le coup lui est typiquement ce joueur là et je pense qu'on cherchait où il pourrait y avoir une équipe qui fait une perf à l'extérieur. Attention au CO sur la pelouse de Bayonne, gonflé par sa victoire au Munster, qui peut toujours être très embêtant.
Très bien. Julien, quel est ton joueur à suivre ?
Ton joueur à suivre.
Ton joueur à suivre. Alexandre Etchebeher. Alexandre Etchebeher, le pilier de la section paloise, qui fait partie de la fameuse capsule de la section, qui est un joueur prometteur. Donc, ils n'en ont pas sorti beaucoup d'avant, les Palois, mais lui fait partie de la génération 2004, la génération d'Espérès, Souverbi, Arfeuil, Atisogbé. Il a grandi avec eux, sauf que pour Alexandre, il s'est fait la rupture du ligament croisé gauche à 20 ans. Et quand il est revenu à la compétition, il s'est fait le droit. Donc pendant 2 ans, il n'a disputé que 10 minutes de rugby. Lui qui a débuté à Mendit, dans la Soule, à côté de Mauléon, au pied des montagnes, le long du saison.
Ça, c'est ton terroir,
Julien. J'ai l'impression de réentendre le podcast sur le pot, là. Allez, les couilles,
oui, après, il a joué à l'entente Aramitz-Barcus. avant de rejoindre la section paloise à 13 ans. Ben voilà, mais il a été aussi appelé en équipe de France. Et ça fait partie des jeunes joueurs qui sont couvés par la fameuse capsule paloise. C'est un pilier pas très costaud. Il ressemble un peu à mon petit tabouret Erdosio. Des piliers petit format, un sultan, voilà, des piliers basques béarnais, comme on en fait beaucoup. Ouais. et voilà, donc il va découvrir le grand bain demain du côté de
Julien,
Toulouse.
Dans sa chambre, a des posters que de piliers basques et béarnais partout sur les murs. Et il dit
Non, mais on loue le travail des trois quarts palois, et voilà, il y a aussi des jeunes devant qui vont arriver du côté de Pau, dont donc le petit Alexandre Etchebeher que nous verrons demain du côté de Toulouse, qui a démarré pour sa première contre La Rochelle en novembre et qui va donc être titulaire demain à Toulouse. C'est un beau défi qui attend Alexandre Etchebeher. La capsule paloise va encore sortir quelques joueurs d'ici quelques années.
Voilà, si vous vous demandez ce qu'est la capsule paloise, on vous renvoie vers le podcast qu'on a fait pendant les fêtes sur la section paloise, et Julien nous explique ça formidablement bien. Et je pense que tous les Béarnais qui nous écoutent sont très contents à chaque fois parce qu'ils entendent parler de tous les villages des alentours. Donc ça doit leur faire plaisir. Merci messieurs, passez un bon week-end sur les terrains, que vous nous écoutiez en route vers le stade ou sur votre canapé. Passez un bon week-end, régalez-vous avec le Top 14 et n'oubliez pas de vous abonner et de noter le podcast si vous l'aimez. À lundi, ciao.